Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition en direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio de l'Esprit public, un public nombreux qui est à l'abri ici pendant que le nouveau président de la République est macronisé, est intronisé, pardon, c'est l'ancien qui est macronisé, à l'Élysée. Nous allons d'ailleurs nous intéresser évidemment, essentiellement, pour ne pas dire uniquement, à cet événement, d'abord à l'événement lui-même et ensuite à ses conséquences. Nous allons le faire donc avec... Pardon, avec Nicolas Bavrez, éditorialiste au Point et au Figaro, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et avec Lionel Zinsou, économiste franco-béninois. Nous commencerons par nous intéresser donc à cette élection de dimanche dernier. Le candidat du mouvement En Marche a été élu président de la République avec 66,10% des suffrages exprimés. La dirigeante du Front National, Marine Le Pen, obtient 33,90% des votes avec 10 600 000 voix. Le parti d'extrême droite réalise ainsi sa meilleure performance à une élection présidentielle. Le président élu a appelé ses soutiens rassemblés au Louvre à faire preuve d'audace face à l'immensité de la tâche. Il a affirmé ne pas prendre comme un blanc-seing le vote des électeurs qui ont souhaité faire barrage au Front National. Il a promis d'œuvrer pour que les soutiens de Marine Le Pen n'aient bientôt plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Marine Le Pen a présenté son parti comme la première force d'opposition, remercié Nicolas Dupont-Aignan d'avoir permis par son ralliement l'émergence d'une alliance patriote et républicaine. Elle s'est félicitée d'une décomposition majeure de la vie politique française par une élimination des partis anciens et de l'émergence d'un clivage entre les patriotes et les mondialistes. La campagne pour le deuxième tour de l'élection a été marquée par une confrontation intense entre les deux finalistes, notamment au cours du débat télévisé du 3 mai. Marine Le Pen a qualifié son adversaire de candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, du saccage économique de nos grands groupes, du communautarisme, et elle l'a traité d'enfant chéri du système et des élites. Emmanuel Macron a accusé la candidate d'extrême droite de vivre de la peur et des mensonges, comme son père pendant des décennies, et l'a assimilée à un parasite vivant du système qu'il dénonce. Cette confrontation a vu Marine Le Pen évoquer un hypothétique compte offshore d'Emmanuel Macron aux Bahamas, alors que des documents douteux accréditant cette allégation circulaient depuis peu sur Internet. L'équipe d'En Marche a également été la victime d'une attaque informatique qui a rendu public le contenu de plusieurs de ses messageries à quelques heures de la clôture de la campagne. Les chiffres de l'abstention et des votes blancs et nuls ont été très commentés. 25-38% des inscrits ne se sont pas rendus dans l'isoloir, résultat le plus élevé depuis 1969, et près de 12% des électeurs ont voté blanc ou nul. Ces résultats ont été repris par le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a qualifié Emmanuel Macron de président minoritaire. Sur cette question, Lionel Zinsou.
Oui, je crois que c'est un événement important qui est en train de se dérouler avec l'investiture d'Emmanuel Macron. Je pense pas que, d'ailleurs, que ce soit simplement une investiture, en fait. Je pense que c'est la naissance d'un mythe. Quelque chose qui ressemble à un mythe de la jeunesse, qui a toujours eu une grande importance. Si vous prenez les chefs d'État et de gouvernement de la France très jeunes, ça a toujours beaucoup marqué. Le dernier jeune, c'était Félix Gaillard, le dernier président du Conseil de la 4e République. Il y a eu un espoir de sauvetage de la 4e République autour de Félix Gaillard. C'est lui qui a signé, d'ailleurs, le traité de Rome pour la France. L'avant-dernier jeune, c'était le duc de Cazes. Et ça avait été, au 19e siècle, également la levée d'un grand espoir. Mais en fait, quand on remonte, c'est plutôt chez les Bonaparte qu'il faut trouver les jeunes. Alors, un tout petit peu plus vieux qu'Emmanuel Macron, c'était le prince-président, Louis-Napoléon Bonaparte. Et en fait, ça avait soulevé également un immense espoir, l'élection pendant la Deuxième République du prince-président. Et puis, en fait, le seul vraiment plus jeune, c'est Bonaparte, premier consul. Et donc, il s'est attaché à chacun de ces hommes, au moment où ils arrivaient aux affaires, une puissance qui était tirée de la jeunesse. L'autre chose, c'est que il a tous les attributs d'une star, en fait. C'est-à-dire que on voit bien, notamment dans le rayonnement international de l'événement et de l'élection, qu'il y a quelque chose qui très immédiatement rappelle Justin Trudeau au Canada, ou Matteo Renzi, qui est plus âgé que lui, mais enfin en Italie. Justin Trudeau, c'est aussi un prince de la jeunesse, mais c'est un héritier. C'est aussi le fils de son père qui a été le plus marquant des premiers ministres du Canada. Néanmoins, il y a quelque chose qui s'attache à ces hommes qui est tout à fait exceptionnel. Moi, j'ai entendu Justin Trudeau avec une formule qui conviendrait très bien à Emmanuel Macron. Les jeunes ne sont pas les leaders de demain. Pause. Ce sont les leaders d'aujourd'hui. Il dit ça avec un naturel parfait. Mais c'est quelque chose donc qui est un ample mythe de la jeunesse. Tous les éléments pour être une star, il y a quelque chose du succès improbable, impossible de Barack Obama. Et d'ailleurs, l'intervention de Barack Obama, qui elle-même est un événement tout à fait exceptionnel, qui se termine en français dans le message de soutien à Emmanuel Macron, montre bien que ça n'est pas simplement un président de la République française. C'est un mythe, c'est quelqu'un qui va devenir une star. Il n'y a pas d'État au monde, sauf la République de San Marin, qui n'a pas de siège au Conseil de sécurité, comme vous l'avez remarqué, qui soit gouverné par un homme aussi jeune. Il n'y en a pas. D'autre part, moi j'étais en Afrique ces dernières semaines, il n'y a pas de village où la question « ils ne vont quand même pas voter pour Marine Le Pen » n'ait été posée. Et si vous étiez en voyage aux États-Unis, c'était pareil. C'était le troisième domino du populisme, comme l'écrit Nicolas, qui va tomber après l'élection, après le Brexit et après l'élection de Trump. Bon, ça ne s'est pas produit, mais c'était une tension mondiale. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus important, je crois, qu'une élection française ordinaire. C'est en fait une élection mondiale. Madame Le Pen n'avait pas tort de dire « Vous êtes le candidat de la mondialisation ». Oui, c'est un candidat mondial avec un impact mondial. Et maintenant, évidemment, la page a l'air blanche. On se dit « Mais que va-t-il faire sur la Syrie ? Que va-t-il faire sur l'Iran ? Sur l'Arabie Saoudite ? En mer de Chine ?» Et on a l'impression que tout est possible. Et ça, c'est quelque chose de très particulier que les Français, je pense, ressentent. D'où un petit vent qui ressemblerait un peu à du soulagement pour beaucoup et un peu à de l'optimisme.
Béatrice Giblin.
C'est aussi parce que c'est l'élection présidentielle d'un président français. C'est aussi la France avec ce qu'elle a dans l'histoire, dans le rôle qu'elle a joué. Élire un président français, c'est pas la même chose que le président de l'Autriche, par exemple. Hein. On a, c'est pas du tout un cocorico que je lance là, mais c'est une constatation. Bon, si Marine Le Pen était arrivée au pouvoir, ce qu'à Dieu ne plaise, bien évidemment, l'impact aurait été extrêmement important. Donc, si vous voulez, c'est en fonction de l'inquiétude que pouvait représenter l'élection de Marine Le Pen qu'on a aussi cette forme de, j'allais dire, d'accueil positif, sympathique, presque confiant envers l'élection de Emmanuel Macron. Puis c'est la performance aussi. Personne ne s'attendait. Enfin, faut se souvenir de la façon dont, y compris Bayrou, avait parlé d'Emmanuel Macron. Enfin, c'était la bulle médiatique. Il allait se casser la figure très rapidement. Enfin, tout ça n'était pas sérieux et traité de façon un peu avec mépris ou tout au moins désintérêt, ce qui n'a pas été du tout le cas. Donc, la performance surprend aussi et énormément. La question aussi qui est, je crois, très très importante, c'est que, pas seulement au niveau mondial, mais ce que vous avez dit, au fond, est-ce que ça aura un impact en France ? Et je ne vais pas entamer la deuxième partie, mais il est évident que si les Français ressentent une fierté à avoir élu un président jeune, bien accueilli dans un certain nombre de régions du monde, mais de la Chine au Canada, et sauf évidemment en Russie peut-être, et peut-être une partie des États-Unis, encore que le grand peuple américain doit y être très très favorable, il y a une réelle fierté. Et ça peut jouer sur ce qui va se passer dans le deuxième temps, celui des législatives.
Nicolas Bavrez.
Alors même si la France est un pays exceptionnel, c'est vrai que cette élection, elle était très exceptionnelle parce qu'on n'a jamais eu une attention pareille du monde entier sur ce qui se passait chez nous. Il y a pour trois raisons. La première, c'était quand même un pays bloqué dans une situation inquiétante. La deuxième raison, c'était l'impact sur l'Europe et notamment l'impact qu'aurait eu une élection de Madame Le Pen, puisque la sortie de l'euro déclenchait une crise majeure, non seulement en Europe, mais potentiellement une crise sur tous les marchés mondiaux, parce que la France, là, est vraiment systémique. Et puis, on l'a dit, 2016, ça a quand même été une année où le populisme a touché le cœur des démocraties, avec le vote du Brexit au Royaume-Uni et l'élection de Donald Trump. On s'aperçoit d'ailleurs dans ces deux pays que les populistes, une fois qu'ils sont élus, il y a un énorme écart entre les promesses et ce qui est fait. Donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Britanniques est rongé par l'inflation et puis par la dévaluation. Quant à M. Trump, on peine à voir ce qu'il a fait de ses 100 jours, sinon rejoindre une ligne diplomatique et stratégique plus classique des États-Unis.
Oui, les deux Donc, autres dominos ne vont pas bien.
De ce point de vue, on a eu effectivement trois, j'allais dire, puisqu'on aime bien ce mot, trois disruptions très importantes. La première, on l'a dit, c'est un tour de force. Un homme jeune, inconnu il y a trois ans des Français, sans parti, sans argent, sans héritage particulier, est devenu président de la République. Il y avait eu deux autres élections en partant de Caen, mais qui représentaient un retournement moins spectaculaire. C'était Valéry Giscard d'Estaing en 1974, et puis Nicolas Sarkozy qui avait réussi à incarner la rupture après 12 années de présidence de Jacques Chirac. Mais les ruptures étaient beaucoup moins importantes et spectaculaires. Et c'est vrai que dans la société la plus bloquée du monde développé, dans le système politique le plus verrouillé, le plus bloqué, cette irruption est d'une certaine manière miraculeuse. Et elle dénoue de façon, comme on l'a dit, optimiste, une élection qui a quand même été très chaotique, très violente et d'une manière générale d'un niveau, et ce qu'elle a révélé de la société française est quand même difficile. Bon, pour l'Europe, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Notre vieille Europe est quand même en train, peut-être, 2017, de répondre positivement à ce choc populiste sur le monde anglo-saxon. C'est vrai que les Pays-Bas, l'Autriche ne sont pas la France, mais c'est quand même la troisième défaite des populistes. Vraisemblablement, en Allemagne, les populistes ne vont pas avoir de très bons résultats. Il restera l'an prochain l'Italie avec Beppe Grillo. Donc, nous avons ces trois lignes qui sont trois lignes positives. Et ensuite, ce qui est très important, vous parliez un peu des premiers pas, ce qui m'a frappé, c'est la cérémonie du Louvre. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a une histoire, mais c'est un homme sans mémoire. Contrairement aux autres candidats, il n'était pas ancré dans un parti politique, dans une histoire longue. Et c'est vrai que cette cérémonie, elle est très importante parce qu'elle le replace dans une mémoire longue. On a à la fois, avec la Cour du Louvre, c'est vrai que d'une certaine manière, on a à la fois Napoléon, on a De Gaulle, on a évidemment François Mitterrand. Et donc, la manière dont d'emblée il s'est extrêmement présidentialisé, à mon avis, dit beaucoup de la manière dont il va vouloir conduire son mandat.
Sylvie Kaufmann.
Moi, j'aimerais revenir sur une dimension qui est passée peut-être inaperçue parce que cette élection s'est déroulée dans un contexte tellement extraordinaire, a été elle-même une succession d'événements plus extraordinaires les uns que les autres. On a eu une telle avalanche d'effets disruptifs, comme disait Nicolas, ou destructeurs. On a eu cet épisode des affaires qui ont décrédibilisé un certain nombre d'acteurs politiques. Enfin, tout ça a été tellement fort qu'on a un petit peu oublié à quel point cette élection a été le signe, je trouve, d'une vitalité démocratique de la société française vraiment intéressante. La participation, on a beaucoup mis en avant le taux d'abstention, mais finalement, ce taux d'abstention, quand on le compare à d'autres démocraties occidentales, révèle une volonté de participer à l'élection et à l'exercice électoral tout à fait positif. Le vote blanc a été important, 4 millions, et en même temps, c'est aussi une façon de participer à l'élection. C'est une façon de dire l'alternative ou l'offre qui m'est proposée ne me convient pas, mais je veux quand même donner mon avis, je veux quand même participer au processus démocratique. On a eu une campagne électorale, rappelez-vous, qui a été marquée à la veille du premier tour par un attentat sur les Champs-Élysées, au cœur de Paris, un attentat terroriste. On a eu 2 années marquées par des attentats de masse, donc une ambiance quand même lourde en France. On a eu, à la veille du deuxième tour, une attaque informatique de piratage sur le principal, un des deux principaux candidats. Voilà. Et malgré tout, cela n'a pas eu d'impact sur le vote. Ce vote a réussi à se dérouler dans une certaine sérénité. Il y a eu ensuite ce rejet massif de l'extrême droite que vous avez souligné, qui est un élément très important de cette élection. Voilà. Et puis, on a par exemple 19 000, je crois, candidatures pour les élections législatives. On y reviendra. Mais c'est aussi le signe d'une volonté de participer à cet exercice démocratique qui, je pense, est important à souligner parce qu'on est dans une période de doute et de destruction assez profonde. Donc il y a cette volonté de détruire, de pulvériser un système politique, mais il y a aussi une volonté derrière de construire. Alors, pour autant, ou en même temps, comme dirait notre président, je voudrais souligner aussi qu'il n'y a pas eu d'explosion de joie le soir du 7 mai. Si certains ici se rappellent le 10 mai 1981, où tout le monde est sorti dans la rue et a convergé vers la Bastille, c'était la fête toute la nuit, là, franchement, Paris était désert. Il n'y a pas eu de manifestation de joie spontanée. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ce moment est très difficile, que la France et le monde traversent une période compliquée, que ce nouveau président va diriger un pays qui est pas seulement divisé, qui est fracturé, que le premier tour a montré à quel point la colère, la frustration et parfois le désespoir s'étaient emparés de l'électorat. Il y a quand même eu, si on additionne les votes pour les extrêmes, ça fait presque, ou pour le rejet du système, ça fait pratiquement la moitié. Voilà, à la fois du côté, la candidature de Mélenchon et celle de Marine Le Pen, ont traduit un désarroi ou un rejet très profond dans l'opinion publique. Alors, moi, j'ai toujours eu un souci sur la campagne d'Emmanuel Macron. On voyait bien qu'il était porté par l'électorat des grandes villes, par ce qu'on appelle les gens qui sont à l'aise dans la mondialisation, ceux qui ont profité, qui ont un certain niveau d'éducation, etc. Je trouvais qu'il n'allait pas assez vers la France périurbaine, vers la France rurale, celle que Marine Le Pen, en revanche, labourait très consciencieusement et qui lui a permis quand même d'arriver à ce résultat qui est loin d'être négligeable, le Front National. Donc, est-ce que Emmanuel Macron a conscience de cette France-là ? Je pense que oui. Je pense qu'il en a particulièrement pris conscience après le premier tour, en regardant les résultats. Il sait qu'il va diriger une France meurtrie, blessée, mais qui n'a pas renoncé à l'espoir. Et c'est là, je crois que, en effet, la jeunesse et l'énergie d'Emmanuel Macron est un vrai atout parce qu'il incarne cet optimisme que les gens sont prêts à accueillir, en tout cas pour l'instant.
Sur la France rurale, et pour ne prendre qu'un petit exemple, faire peut-être de la sociologie de chauffeur de taxi, mais dans le nord de l'Aveyron, qui est une région que je fréquente, Emmanuel Macron a fait un score au deuxième tour supérieur à son score national. Ce qui prouve que dans une campagne qui n'est pas particulièrement dans la voie de la prospérité économique, il avait des supporters. Et quand même, je pense que sur le bilan de la campagne, on peut aussi ajouter que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon peuvent porter à leur crédit d'avoir ramené à l'intérêt pour la politique
absolument.
Des classes d'âge que ça n'intéressait absolument plus, voire qui en parlaient avec dérision et mépris. Lionel Zinsou.
Oui, moi je suis d'accord avec l'analyse de Sylvie, sauf sur ce terme qui revient en permanence, cette métaphore de la fracture. Encore que les fractures, ça se réduit, ça se guérit, peut mettre des broches, donc il a beaucoup de travail qu'il peut faire sur les fractures. Mais est-ce que c'est vraiment une fracture avec cette idée de grande diagonale, Le Havre, Marseille, plus quelques départements de côtiers ?
C'est une fracture au pluriel, je dirais.
Oui, moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'analyse territoriale de cette élection, qui est quand même absolument spectaculaire. Même de l'autre côté de la ligne de démarcation, vers le nord-est de la France, là où le Front National a fait des performances exceptionnelles, même là, au cœur des villes, moyennes comme grandes, le vote Macron est très fort et surpondéré par rapport à la moyenne nationale. Et ce qui est quand même vraiment frappant, il y avait d'ailleurs une représentation graphique de ça dans la presse ces derniers jours, mais c'est vraiment complètement nouveau, c'est que au centre d'une ville, quelle qu'elle soit, moyenne ou grande, il est en forte avance par rapport à Marine Le Pen, 5 kilomètres plus loin dans la France périphérique, périurbaine, Monsieur Mélenchon prend le relais, 5 kilomètres plus loin dans les campagnes, Madame Le Pen devient majoritaire. Et ça, dans toute la France. Donc c'est quelque chose, c'est un phénomène assez homogène et qui donne le sentiment qu'il y a eu un délaissement, un désarmement du service public, l'absence de disponibilité d'Internet au débit, l'absence de bureaux de poste, les problèmes de faire des kilomètres pour les maternités, enfin toute une série de choses qui, et puis une crise spécifique de l'agriculture, qui sont des sujets sérieux, mais qu'on rencontre dans toute la France. Et c'est le président des villes, Madame Marine Le Pen, était candidate à être présidente des champs, si vous voulez. Donc il y a quand même quelque chose, là, sur la territorialité, qui demanderait tout de même des efforts considérables. Deuxième chose, on parle d'un président minoritaire. Philippe a rappelé cette polémique de Monsieur Mélenchon. Écoutez, je ne sais pas qui est le plus minoritaire des deux, pour être sincère, entre M. Mélenchon et M. Macron, mais c'est un procès absurde. Il est le mieux élu de tous les présidents de la République, même en déduisant les abstentions, les blancs et nuls. Alors évidemment, ce n'est pas une performance exceptionnelle, c'est juste mieux que le général de Gaulle, mieux que Georges Pompidou, mieux que Valéry Giscard d'Estaing, mieux que, enfin bon, Mitterrand, on peut faire la litanie, c'est juste un tout petit peu moins bien.
En pourcentage des inscrits, il faut...
Oui. Si on est en pourcentage des inscrits...
C'est la seule chose qu'on puisse prendre pour comparer.
Et en exprimé et en inscrit, il n'y a que Jacques Chirac en 2002, dans quelque chose qui est évidemment une situation très très différente. Donc le président mal élu, qui se trouve juste être le mieux élu de la Ve République, oui, tout le monde a été très mal élu, la démocratie française a des problèmes. Je pense que ce thème de la minorité est une mise en cause de l'institution qui est un petit peu, tout petit peu gênante. Ensuite, je trouve que le Front républicain, de fait, comme à la surprise générale pendant les régionales, en décembre 2015, où on a vu M. Estrosi, M. Xavier Bertrand, enfin, on a vu le Front National n'obtenir aucune des régions et un Front républicain très puissant se mettre en place, je trouve que le Front républicain, une fois de plus, a fonctionné de fait. Il y a des gens qui sont dans le nini et qui refusent le Front républicain, mais ce n'est pas des électeurs. C'est un certain nombre d'hommes politiques. Ça va être assez important parce que ça va être la clé de votre deuxième partie, j'imagine, mais c'est des législatives. En tout cas, le Front républicain, du fait des électeurs, s'est quand même matérialisé.
Béatrice Gible.
Oui, moi je voudrais revenir sur l'analyse que vous avez faite au fond d'une territorialité du vote, en disant Macron c'est le cœur des villes, Mélenchon c'est la première couronne et Marine Le Pen c'est la seconde couronne. Ce n'est qu'en partie vrai. Ce qui est indéniable, c'est qu'effectivement, on l'a dit, le vote métropolitain en ville pour Emmanuel Macron est indéniable. Mais je vais prendre le cas du Pas-de-Calais que je connais bien, et puis c'est celui auquel notre président est fort attaché avec le Touquet. Vous avez un Front National qui est très très fort au cœur des villes de 30 000, 40 000 habitants, 50 000 habitants. La plus grande ville du Pas-de-Calais, c'est Calais, avec 74 000 habitants, où Marine Le Pen, au deuxième tour, fait presque 58% des voix et était très nettement en tête au cœur de cette ville qui n'a pas de banlieue dès le premier tour. Donc, il faut faire attention à cette généralisation-là. Marine Le Pen à Mazingarbe, qui est une ville minière de la chimie, de la houille, fait plus de 69% des voix au deuxième tour au cœur de cette ville qui fait 18 000 habitants. C'est pas une grande ville, mais en France, il n'y a pas tant que ça des grandes villes. Donc, les caractéristiques, si vous voulez, géoculturelles, et sociologiques et économiques des territoires est vraiment très importante à prendre en compte. La deuxième remarque, c'est qu'on peut pas dire que Marine Le Pen c'est les champs et Emmanuel Macron c'est les villes. Si vous voulez, c'est vous qui avez mis en cause au fond cette opposition d'une France de l'Est et d'une France de l'Ouest à travers la ligne Le Havre, Paris, Marseille, qui serait d'ailleurs beaucoup plus une ligne Paris-Le Havre-Perpignan, si on était un peu précis, dans la mesure où vous avez quand même tout votre arc méditerranéen dans lequel Marine Le Pen est très implantée.
Moins toute la région lyonnaise, toute la région grenobloise, enfin moins, avec un gros trou quand même.
Oui, mais enfin, dans la région lyonnaise, si on regarde l'Est lyonnais, on a une Marine Le Pen qui est quand même très très bien implantée là. Si on regarde la Haute-Savoie, on a une Marine Le Pen qui quand même se porte très très bien. Vous avez qu'à regarder autour de la vallée de l'Arve dans la Cluse. Là, vous avez un Front National qui est quand même très puissant. Et puis surtout, ce qui est important, je crois, quand même à prendre en compte, même si le Front Républicain, comme vous le dites, a fonctionné, c'est qu'on a une poussée de Marine Le Pen sur l'ensemble du territoire. Elle a gagné un nombre de voix sur l'Ouest qui est très très important. C'est par millions de voix qu'elle a gagné par rapport à 2002, bien sûr, mais elle continue à gagner par rapport au régional même de 2015. Donc ça, je termine juste là-dessus, elle a d'une certaine façon, j'allais dire, gagné l'ensemble du territoire ou une partie de l'électorat du territoire français à ses idées. Et là, il va falloir en tenir compte.
Nicolas Bavrez.
Sur la fracture, je crois que ce scrutin était bien la suite du vote du Brexit et puis de l'élection de Donald Trump. Quand on regarde les fractures territoriales qu'on avait entre, par exemple, Londres et puis le reste du territoire, ou ce qu'on voyait aux États-Unis qui était très spectaculaire avec les deux côtes et puis entre les deux côtes, si je puis dire, un vote Trump absolument massif. Et c'est vrai que les cartes du premier tour sont très spectaculaires. Simplement, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que c'est bien une France inclue contre une France exclue, mais que les clivages de l'exclusion, ils sont divers. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire simplement c'est les villes contre les campagnes. Non, ça serait davantage les métropoles contre, y compris les villes moyennes et petites, qui ont effectivement massivement voté pour exprimer un vote protestataire. Néanmoins, il faut jamais oublier qu'il s'est passé quelque chose de très important pendant l'entre-deux-tours, c'est le débat télévisé. Dans l'histoire, c'est la première fois qu'on a un déplacement de 5 à 6 points de voix autour de ce débat, et où, y compris un certain nombre d'électeurs du Front National, ont été extrêmement saisis et déçus par la performance de leur candidate. Donc cet élément a été extrêmement important. Ce qui reste donc, c'est quand même ce qu'on a rappelé, le premier tour de l'élection où les gens sont réputés voter, les citoyens, pour ce qu'ils souhaitent, on a quand même eu 55% des votes contre l'économie de marché et l'Europe. Et il ne fait pas de doute, et on va en reparler sans doute maintenant, qu'une des tâches les plus compliquées d'Emmanuel Macron, il va évidemment falloir faire repartir l'économie, mais c'est d'arriver à réconcilier ces Frances avec des clivages et des fractures qui sont économiques, sociales, culturelles, politiques, territoriales.
Intéressons-nous en effet à ce qui pourrait se passer à partir de maintenant, puisque l'élection a donné le coup d'envoi à la campagne pour les législatives. La République En Marche, pardon, a présenté jeudi dernier une liste de 428 candidats et suppléants investis par le mouvement selon des critères, je cite, de renouvellement, de parité, de probité, de pluralisme politique et de cohérence. Son secrétaire général, Richard Ferrand, a souligné que 52% des candidats sont issus de la société civile et que l'âge moyen des investis est de 46 ans. Le président du MoDem, François Bayrou, a d'abord refusé d'avaliser ce qu'il a appelé une opération de recyclage du PS, avant de parvenir à un accord qu'il a qualifié de respectueux des termes de l'alliance nouée avec La République En Marche. Les noms des candidats désignés dans les 149 circonscriptions manquantes ne seront pas connus avant la semaine prochaine, afin de libérer un espace permettant la recomposition de la vie politique. Certaines de ces circonscriptions sont déjà convoitées par des candidats Les Républicains, comme Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, et des proches d'Alain Juppé, comme Gilles Boyer ou Franck Riester. Le chef de file des Républicains, François Baroin, a dénoncé des tentatives tentative de débauchage et affirmé que sa formation était tournée vers l'objectif d'une majorité au Parlement. Le Parti socialiste aborde le futur scrutin dans une situation de crise. L'ancien Premier ministre Manuel Valls a affirmé que la formation était morte avant de se déclarer engagé pour la victoire d'une majorité présidentielle, à défaut d'une investiture en bonne et due forme de La République en marche. Les dirigeants socialistes se sont prononcés pour une ligne d'autonomie constructive vis-à-vis d'En Marche, autonomie fondée sur une plateforme largement expurgée du programme de Benoît Hamon. L'ancien candidat socialiste a annoncé le lancement d'un mouvement de reconstruction d'une gauche inventive qui rassemblerait socialistes, écologistes et communistes. Le parti est également menacé par la France insoumise, dont le leader Jean-Luc Mélenchon a annoncé son intention de remplacer le PS, dont il affrontera à Marseille le député sortant dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Patrick Mennucci. Le Front National est secoué par la décision de la députée du Vaucluse, Marion Maréchal-Le Pen, de ne pas se représenter pour des raisons privées, a-t-elle annoncé. De nombreux commentateurs ont interprété ce départ comme le résultat de tensions avec Marine Le Pen et Florent Philippot après une campagne présidentielle qui a déçu de nombreux militants. Sur cette question, Béatrice Gibelin.
Ben, assurément, on est dans une grande incertitude pour savoir de quel type d'Assemblée nationale sortira des élections législatives. Je pense qu'on n'a jamais été dans une aussi grande incertitude. Pourquoi cette incertitude? D'abord, il y a la grande question de la participation. Sylvie Kaufmann a rappelé qu'au fond, la participation présidentielle n'avait pas été si mauvaise que ça quand on compare effectivement aux autres démocraties occidentales. Et c'est vrai. Mais on a souvent constaté que les législatives qui suivent bien sûr maintenant l'élection présidentielle, entraîner non pas globalement à l'échelle nationale une forte baisse de l'abstention, mais une géographie de cette abstention qui, elle, était très contrastée. Au fond, la grande question qui va se poser, vous avez dit très justement, Philippe, que Mélenchon, d'une part, et Macron, d'autre part, avaient réattiré des électeurs jeunes, désintéressés par la politique. Vont-ils être encore motivés pour les législatives? Si je repense aux élections de 2007 et 2012, on avait vu une très forte montée de l'abstention, par exemple en Seine-Saint-Denis, où des jeunes qui avaient voté Ségolène Royal ou François Hollande en 2007 et 2012 ne se sont pas déplacés pour les législatives. C'est un enjeu majeur pour Mélenchon. Soit il continue à mobiliser ces gens dans cette banlieue et ces périphéries dont vous avez parlé, soit non. Et moi, j'ai une inquiétude pour lui, pour le reste, c'est de me dire, quand je vois les scores de Macron à Bobigny, à La Courneuve, à Saint-Denis, c'est-à-dire vraiment au cœur de l'électorat Mélenchon, qui est arrivé nettement en tête avec plus de 30% des voix au premier tour, Macron fait dans ces villes 70% des voix, 74%, 78%, c'est-à-dire beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer qu'il ferait. Donc, est-ce que la dynamique va être côté Macron, ou est-ce qu'on va aller vers l'abstention, ou est-ce que Mélenchon va réussir à mobiliser ces gens? C'est une première très grande incertitude. La deuxième incertitude, va-t-on avoir un réveil de la droite? C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'électeurs qui ont dit « Ah non, moi, Fillon, avec ses histoires de costumes et de Pénélope, je ne voterai pas pour lui ». Est-ce qu'aux législatives, ils reviennent à leur famille politique? Mais là aussi, à droite comme à gauche, on va avoir un bouleversement des candidats. On n'a plus le droit au cumul des mandats, donc on est nécessairement obligé de choisir si on est maire ou si on est député. On va avoir quand même des divisions importantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller voter pour Marine Le candidat de Marine Le Pen dans le sud de la France? Dans le nord, la droite où Marine Le Pen est très forte et pour ainsi dire inexistante, donc ça ne joue pas énormément, mais dans le sud, ça peut jouer fortement. Et puis, quant à la gauche, le pari de Mélenchon de, effectivement, remplacer le PS me semble, pour ma part, mais extrêmement difficile à gagner. Très très difficile pour les raisons que je vous disais, c'est-à-dire que est-ce qu'il va réussir à mobiliser fortement? Puis dernier point, quand on est dans des législatives, on est face à des députés sortants comme Mennucci, qui est un député compétent, reconnu comme tel, puisqu'il a été, j'allais dire, primé en 2015 comme le meilleur député. Il tient sa circonscription. Tout dépend si Godin fait alliance avec Mennucci pour virer Mélenchon, en pensant que c'est plus important, ou si il fait une mauvaise part à Mennucci en faisant une alliance avec Mélenchon, car le clientélisme, sans mauvaise part de ma part, est extrêmement important.
Lionel Zinsou.
Il ne faudrait pas qu'on fasse une émission spéciale Mélenchon, parce que vous vous rappelez qu'il est...
Ou spécial Mélenchon.
Il s'était porté aussi bravement dans une autre circonscription légèrement disputée, à Hénin-Beaumont.
Oui, il a laissé un très mauvais souvenir parce qu'il est passé pas... et il est reparti dès le lendemain. Il n'y a plus jamais mis les pieds.
Ça n'était pas vraiment... Mais enfin bon, on résiste à cette pulsion. Moi, je suis frappé quand même par le fait qu'on est dans une époque étrange où, en quelques jours, comme des châteaux de cartes, comme si on était en révolution, pour reprendre le titre du livre du président, les choses s'abattent sur elles-mêmes d'une façon quand même spectaculaire, parce que d'entendre le Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, principal homme d'État derrière François Hollande pendant 5 ans, pilier depuis longtemps du Parti Socialiste, expliquer que le Parti Socialiste est mort, qu'on va créer un autre parti, qu'il s'inscrit dans la majorité présidentielle. Enfin, le geste de Manuel Valls est d'une force considérable. De même, le geste de Bruno Le Maire. De même, l'idée que peut-être ce sera un républicain proche d'Alain Juppé qui sera Premier ministre dans 24 heures. Tout ça, c'est des changements considérables. On revient sur des choses qui avaient l'air établies. Si on a un Premier ministre juppéiste, ça voudrait dire que on revient sur le résultat des primaires de droite, tout en faisant la synthèse avec la gauche. Et les partis sont manifestement en train de se renouveler tous. Il va y avoir 3 partis socialistes, apparemment. Monsieur Hamon prend une grande initiative avec Monsieur Mélenchon à partir de juillet. Madame Aubry, Madame Hidalgo forment un autre mouvement.
Et avec une Madame partie... Taubira.
Et Madame les Taubira, 3 parts, pardon.
Soit complète. Les sorcières
de la... Non, mais c'est très bien, c'est très bien.
Pardon.
Non, mais nous avons un respect égal pour chacune de ces personnes, mais qui sont quand même très représentatives et qui partent avec encore un autre morceau de l'héritage. Et Emmanuel Valls va manifestement emmener avec lui une bonne partie des sociolibéraux. Tout ça en 3 ou 4 jours. Ce qui veut dire que c'est pas la peine de raisonner en statique comparative. C'est-à-dire, il y avait l'Assemblée avant, les partis avant. Qu'est-ce qui va se passer le 11 juin? Est-ce qu'ils vont revenir à la maison, parce qu'ils vont revenir au bercail et au parti d'où ils venaient comme électeurs. Mais s'ils cherchent avec une lanterne comment revenir chez les Républicains ou les Socialistes, ils vont avoir un problème, c'est qu'il n'y aura plus de parti républicain le 11 juin, il n'y aura plus de parti socialiste dans la même réalité. Il y aura quelque chose, effectivement, mais qui sera complètement dispersé, éclaté, et donc vous pouvez pas revenir à la maison si la maison est en ruine, vous voyez, vous êtes obligé quand même de construire un autre logement politique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en statique comparative, vous ne pouvez plus comparer. Vous êtes en dynamique. Vous êtes en marche, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en dynamique. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas. Tout a vraiment changé. Et ça, c'est pas un facteur d'incertitude, mais c'est quand même un changement de repère. Tout le monde va devoir se reclasser. C'est un événement aussi important, d'une certaine manière, que la naissance de la Ve République. Vous voyez, naissance d'un mythe, naissance d'une star, naissance d'une nouvelle époque, en quelques jours extrêmement rapides. Et je voudrais aussi dire que l'incertitude n'est pas dans les sondages, parce que il ne faut pas qu'on recommence ce qu'on avait fait dans nos commentaires avant le premier tour. Rappelez-vous, on avait essayé de dire, attendez, on va peut-être se réveiller avec un résultat qui correspond exactement au sondage. C'est-à-dire, à force de dire, on n'y comprend rien, c'est une énigme, ça n'a jamais été aussi opaque, c'est une incertitude. Et puis, le lendemain matin, on constate que ça fait 12 semaines qu'on disait que le président Macron allait battre Marine Le Pen par un peu plus de 60 à un peu moins de 40, et qu'au premier tour, il aurait 24 et il aurait 22. Donc, en fait, les sondages français sont assez bons. Et la projection sur l'Assemblée nationale, elle est pour l'instant juste de savoir si le président va avoir son coalition auxiliaire supplémentaire, la majorité absolue, ou s'il a besoin d'une coalition, mais qu'il soit aux marches du pouvoir à l'Assemblée, c'est donné dans toutes les projections, circonscription par circonscription. Donc l'incertitude, c'est comment on se reclasse dans ce paysage politique qui d'ailleurs correspond à une tradition de force centrale, à la fois social-démocrate et de centre-gauche, qui a été théorisée, appelée avant la bipolarisation par Valéry Giscard d'Estaing, qui a eu du mal à se réaliser, mais qui se réalise aujourd'hui, donc qui est dans une tradition politique. C'est donc, il faut trouver ses repères et se recomposer comme ça. Mais l'incertitude n'est pas si grande, et l'idée d'une France ingouvernable, ou l'attente d'une cohabitation, Je ne voudrais pas revenir à un candidat d'extrême-gauche qui a eu beaucoup de succès, mais je constate qu'il annonce une cohabitation à gauche. Eh bien ça, c'est crâne, ça c'est pari à la Macron, parce que pour l'instant, à l'extrême-gauche, Parti communiste, Front de gauche, on prévoit quand même 15 députés, donc une cohabitation avec 15 députés, ça demande quand même du panache, mais il n'en manque pas.
Sylvie Kaufmann.
Voilà, je confirme, on est dans une période révolutionnaire, je crois. C'est là, on assiste au départ du deuxième étage de la fusée Macron. C'est la deuxième étape de l'opération dynamitage. Il y a eu d'abord l'élection présidentielle, c'était la première étape. Et maintenant, on pulvérise le paysage politique que l'on connaissait complètement. Alors, on a en effet un ancien Premier ministre, ancien candidat, puisqu'il était candidat aux primaires, Manuel Valls, qui dit le PS est mort, il est derrière nous. Et on est déjà tellement habitué à ce champ de ruines que personne ne fait attention à cette déclaration, qui est quand même assez intéressante, je trouve, vu son auteur. On a un parti, Les Républicains, qui ne sait pas quoi faire, qui essaye de ramasser les morceaux, qui se dit, bon, on va peut-être attendre pour exploser les élections législatives, on va pas le faire tout de suite. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et on voit à quel point tout ça est une stratégie voulue de la part d'Emmanuel Macron. Je crois que cet entre-deux-tours a été très, très instructif. Vous avez parlé tout à l'heure à la fois de la cérémonie du Louvre, enfin de l'arrivée au Louvre le soir du deuxième tour, de cette mise en scène, de cette théâtralisation qu'il a transformée, où on a vu qu'Emmanuel Macron endossait vraiment le personnage, les habits présidentiels et devenait vraiment un homme d'État tout d'un coup. Quel contraste avec le soir du premier tour. On a vu dans ces documentaires qu'on a vus à la télévision, on a vu dans plusieurs interviews à quel point finalement, et maintenant dans sa stratégie sur les élections législatives, à quel point tout ça est voulu et pensé. C'est vraiment, je trouve, assez impressionnant. On connaît sa puissance de conviction. On a vu qu'il avait un sens de politique et une intuition politique vraiment spectaculaire, puisque c'est lui qui, au départ, finalement, a compris que ce système politique était brisé et a joué ce qu'on a pensé être un coup de poker, mais en réalité, tout ça a été une nouvelle fois pensé et construit. Et donc là, ce qu'on voit avec, vous avez dit que la République En Marche, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, présente 428 candidats, donc il y en a 159 qui manquent, n'est-ce pas? Et ça, c'est à nouveau voulu pour laisser le temps aux partis, notamment aux Républicains, de réfléchir, de mûrir. On va avoir le nom du Premier ministre.
De mûrir et de tomber.
Pardon.
Comme les fruits de mûrir et de tomber.
Voilà, et de tomber. Voilà, donc tout ça est vraiment voulu. Et de même, ce qu'on a pris comme un cafouillage, l'affaire Valls et l'affaire Bayrou. Donc Manuel Valls qui dit « Je suis candidat, je veux bien, je serai candidat sous l'étiquette En Marche ». Et puis cette humiliation suprême apparemment du mouvement d'Emmanuel Macron qui dit « Mais on ne vous a rien demandé ». En réalité, ça n'est pas un cafouillage. C'est à nouveau une façon de montrer la fermeté au risque de l'humiliation. Et c'est la même chose avec le Modem et les candidats de François Bayrou. Une façon de montrer que rien ne fera dévier le président et ce dynamiteur de la voie du renouveau.
Après,
est-ce que ça va marcher, c'est autre chose.
À propos de Manuel Valls, dans ma pieuse jeunesse, on apprenait un adage qui disait « Les convertis peuvent participer à la procession, mais ils ne sauraient tenir la bannière. » Nicolas Bavraise.
Bien, nous approchons de l'épilogue d'un cycle électoral incroyable, puisque c'est une élection à 8 tours. Elle a démarré avec les primaires de la gauche et de la droite. Il se trouve que ces primaires ont débouché sur des candidats qui n'ont pas été au second tour. Ensuite, l'élection présidentielle. Et nous allons finir avec les législatives. C'est mieux que Borgen ou West Wing. C'est une série absolument extraordinaire et ponctuée par beaucoup, beaucoup, effectivement, d'imprévus et de coups divers. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'élection présidentielle débouche, les deux finalistes n'appartenaient pas au parti de, dit de gouvernement. Et donc, la dynamique présidentielle, également le fait que 200 députés ne se représentent pas, font que maintenant, on va avoir ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, mais appliquée au système politique et non pas à l'économie. Alors, du point de vue de la destruction, les choses progressent assez bien, il faut le reconnaître. Et donc, pour la gauche... Pour la gauche, c'est fait.
C'est fait.
Ça, il n'y a pas de doute possible. Ce qui est intéressant, c'est que pour le FN, ça commence à se sentir. Parce que de même que le débat a été complètement raté, derrière, il y a un vrai problème de ligne politique au Front National, une vraie division, et ça, ça va peser extrêmement lourdement. Et puis, il y a la droite qui est un peu dans la position, j'allais dire, les leaders de la droite sont dans la position de la personne, il y a un barrage avec une énorme fissure et on a le doigt dans la fissure. Et ça, c'est pas une position très confortable. Le président de la République a donc deux manières de faire en sorte que la fissure s'élargisse et que le barrage cède. Et il a une stratégie en deux coups. La formation du gouvernement, parce que ça, ça peut être une manière d'emporter une partie des Républicains. Et puis, si cette opération ne marche pas, attendre le résultat des élections et passer un accord de gouvernement avec une partie, de la droite et la partie qui est la plus modérée. Et étant entendu que quand on regarde froidement le programme Macron et le programme Fillon, les priorités étaient à peu près les mêmes et on peut dire qu'il y avait plus une différence de degré qu'une différence de nature. Donc, ce qui se passe, il y a évidemment un intérêt majeur à obtenir l'éclatement de la droite dès la semaine prochaine et je pense que ça va être le principal objectif de la nomination du Premier ministre et du gouvernement. L'autre chose qui va être faite, à mon avis, dans la continuité de la cérémonie du Louvre, c'est que je pense que les premiers pas du président Macron vont être des premiers pas extrêmement régaliens. Il a un calendrier qu'il sert, puisqu'il va y avoir vraisemblablement, je pense qu'il ira rendre visite à nos soldats en opération extérieure, sans doute au Mali. Il va y avoir ensuite Berlin, il va y avoir surtout le sommet de l'OTAN le 25 mai, c'est la première fois que Donald Trump va venir en Europe. Donc il a un agenda diplomatique et stratégique qui va lui permettre de s'installer vraiment dans les habits du président et sans prendre de risques sur la politique intérieure. Donc au total, il y a une configuration qui normalement est assez favorable.
Oui, je voudrais revenir quand même sur le problème de l'abstention à ces législatives. Parce que pour se maintenir au deuxième tour, il faut avoir obtenu 12,5% des inscrits. Or, si on se trouve dans une situation avec une forte abstention, peu seront les candidats qui pourront avoir 12,5% des inscrits. Donc la mobilisation de l'électorat pour tel ou tel candidat va être fondamentale. Et là où on va avoir des choses qui vont, à mon avis, beaucoup changer le paysage politique, c'est est-ce que la mobilisation des électeurs du Front National, dont je disais qu'elle couvrait maintenant l'ensemble du territoire français, avec évidemment des points plus forts sur le nord-est et le sud-est qu'à l'ouest, est-ce qu'ils vont être en position, eux, de se maintenir quand des candidats, on va dire, de partis classiques ne vont pas pouvoir l'être de nouveau. Auquel cas, on risque d'avoir un résultat avec une présence de députés Front National qui sera une force politique avec laquelle il faudra compter. Et ça, c'est vraiment une réelle incertitude.
Je peux ajouter à votre diagnostic aux questions que vous posiez tout à l'heure sur la France insoumise et ce qui a été dit également, que Jean-Luc Mélenchon est occupé lui-même à détruire ce qu'il a construit. C'est-à-dire qu'il va de plateau de télévision en salle de meeting en disant qu'il ne lui a manqué que 600 000 voix, ce qui, dans la démocratie, semble être une chose importante. Mais il le dit sur le ton d'Harpagon qui cherche sa cassette. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un les lui a pris. Et oui, il faudrait qu'on les lui rende. C'est quand même quelque chose.
Et puis, il vient aussi de faire une rupture avec le Parti communiste.
Lionel Zinsou.
Non, il y a quelque chose qui sert énormément Emmanuel Macron, c'est que c'est bien la progression territoriale des populismes, mais elle est encore assez dispersée et diluée sur le territoire. Donc les points de fixation où il y a une chance de l'emporter se limitent apparemment à une centaine de circonscriptions.
Ah, c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup, mais enfin, c'est 577, ça se limite à cela. Et encore une fois, tous les candidats du Front National n'ont pas l'aura et l'expérience de Marine Le Pen. Il y a un problème de personnel politique.
Pas ceux d'En Marche non plus.
Mais ils ont l'attrait de la nouveauté. Je vous l'accorde. Mais il est peut-être plus facile d'être En Marche en étant en même temps de droite et de gauche que d'être inconnu et extrémiste. Vous voulez. Quitte à croiser un inconnu, vous préférez qu'il soit consensuel, oui, bienveillant. Enfin, il y a toute une série d'adjectifs particuliers, donc c'est pas symétrique. Et donc, normalement, on devrait avoir non seulement une défaite des deux populismes, mais en fait, ils devraient aider assez considérablement parce que, encore une fois, quand on est capable de voter Estrosi pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, quand on est capable de retirer le candidat socialiste dans la région des Hauts-de-France, ça veut dire qu'on est vraiment quand même dans une culture réelle de base du Front républicain. Et donc, les deux populismes, probablement, vont faciliter beaucoup le travail d'En Marche et se retrouver avec des résultats résiduels.
Sylvie Kaufmann.
Oui, et pour compléter ce que vient de dire Lionel, je crois qu'il est plus facile d'être En Marche aussi quand on soutient un président qui vient d'être élu avec plus de 66% des voix. C'est cet élan qu'on a déjà connu dans la Ve République, c'est vraiment ça le pari d'Emmanuel Macron, parce qu'il fait le pari d'une majorité absolue. Et ça, il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit notamment dans une interview au Monde début avril, où il a dit « il me faut la majorité absolue, c'est une condition d'efficacité, entrer dans une logique d'accord d'appareil, ça veut dire construire une majorité de briques et de brocs. Je veux une alternance profonde avec une orientation politique classique et une majorité politique cohérente. » Donc là, il fait vraiment tout pour obtenir cette majorité absolue. Est-ce qu'il va y arriver ? Ça, c'est le pari.
Nicolas Bavraise.
Côté recomposition, il faut quand même marquer que, là encore, Emmanuel Macron fait ce qu'il avait annoncé. On a ce processus qui est quand même sans précédent, des 19 000 candidatures. Et ça va se stabiliser en fonction de ce qui va se passer à droite la semaine prochaine, mais il y a 95% des candidats retenus qui n'ont jamais fait de politique, une majorité qui vient de la société civile, et pour l'instant une parité parfaite. Donc c'est quand même des signaux de renouveau qui correspondent, à mon avis, à ce que souhaitent les Français. La majorité absolue reste un objectif très difficile à atteindre. Je rappellerai que le général de Gaulle en 1958, qui est le général de Gaulle, qui a créé une nouvelle constitution, passe de 22 députés gaulliste dans la dernière chambre de la quatrième à 220 députés. C'est beaucoup, mais ça n'est pas la majorité absolue.
Je vous remercie. Nous sommes maintenant entrés dans notre dernière séquence, la séquence des brefs. Je voulais l'ouvrir, non pas en vous recommandant un spectacle, encore que si vous avez l'occasion d'aller entendre Yves Jamais, qui est un magnifique chanteur, qui fait un magnifique spectacle, ne vous en privez pas, mais en attirant l'attention sur un domaine qui nous concerne quelque peu ici, qui est le domaine de la culture. On ne sait pas s'il y aura ou pas un ministère de la culture, mais je lis ici et là, et encore hier une opinion dans Le Monde, qu'un certain nombre de gens croient devoir réclamer la fusion entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. C'est une erreur complète, ça ne marche jamais. Le ministère de l'Éducation est bien trop gros, bien trop bureaucratique, bien trop organisé, il bouffe toujours tout ce qui vient de la culture. Ça peut marcher sur le terrain, on voit bien, et j'en connais des exemples, des gens qui individuellement, des inspecteurs d'académie, des professeurs, des directeurs d'établissement, qui font affaire avec des gens qui rendent la culture sous toutes ses formes, les arts sous toutes leurs formes et dans toutes leurs expressions vivantes. Ça peut marcher entre des personnes, ça peut marcher dans certains endroits, mais l'idée de fondre le ministère de la Culture dans le ministère de l'Éducation me paraît une erreur majeure. Je crois plutôt, si je peux me permettre de donner un conseil au nouveau président qui en ce moment doit être à l'écoute, je pense qu'il a fait l'essentiel de ce qu'il avait à faire, c'est Monsieur le Président, pensez votre politique culturelle en même temps que vous pensez votre politique d'aménagement du territoire. Ne me remerciez pas. Sylvie Kaufmann.
Je suis sûre qu'il écoute le podcast, en tout cas. Moi, je voudrais réhabiliter Machiavel avec un petit livre, avec Patrick Boucheron, qui est quand même le maître en la matière, et un petit livre qui s'appelle « Un été avec Machiavel », qui est une reprise, je crois, d'une série d'émissions l'été dernier sur France Inter. Et alors, on dit toujours beaucoup de mal du machiavélisme, mais Machiavel lui-même était un personnage extrêmement créatif et intéressant qui a sorti le politique de la gangue du religieux et de l'idéologie. Et je voudrais juste lire un très bref passage qui, aujourd'hui, je trouve, résonne d'une manière très intéressante. Le 19 juin 1498, trois semaines après l'exécution de Savonarole, le Grand Conseil confirme Machiavel dans ses nouvelles fonctions. Il s'entoure d'une petite équipe qui le suivra jusqu'en 1512. Aucun n'a 30 ans. Ils sont jurés juristes et fins lettrés. Ils sont surtout affamés de travail, de pouvoir et d'amitié. Pendant 15 ans, cette joyeuse brigade va tout partager. Un régime politique se caractérise aussi par l'âge de ceux qui exercent les responsabilités. Derrière les fastes juvéniles de la cour médicéenne, une gérontocratie tenait fermement les rênes du pouvoir. Exténuée, elle vient de les lâcher. C'est le moment de s'en saisir. Machiavel en fera plus tard sa maxime. Tenter la fortune car elle est l'amie des jeunes gens et changer selon le temps. Les temps sont venus, enfin ça commence.
Nicolas Barrès.
En ce jour d'investiture du nouveau président Emmanuel Macron, je voulais rappeler le chef-d'œuvre de Norbert Elias, La Société de Cour. C'est la manière dont, autour de la personne, la figure du roi, on invente une nouvelle civilisation occidentale qui va progressivement donc construire l'Occident en partant de l'aristocratie, mais pour ensuite avoir des mœurs différentes qui vont s'installer dans toute la société. C'est l'invention aussi, d'une certaine manière, paradoxalement, de la société démocratique.
Lionel Zinsou.
Vous voyez bien que c'est la naissance d'un mythe. Donc voilà, Emmanuel, héritier de Machiavel. Enfin,
encore qu'en 1494, 30 ans, c'était déjà assez vieux.
Non, moi je voudrais juste commenter ce qu'a évoqué Nicolas sur les premiers voyages du président qui vont avoir une grande importance. Après l'Allemagne, probablement après Berlin, c'est un rite. En fait, l'Afrique attend que la première visite bilatérale, en dehors des sommets du G7 et de l'OTAN, la première visite bilatérale soit pour le Maroc, et aller parler au Maroc de l'ensemble de la relation avec l'Afrique. Il faut bien voir que jamais élection présidentielle française n'aura tenu tant en émoi l'Afrique, pour beaucoup de raisons. Vous avez peut-être observé que les électeurs souvent binationaux qui ont voté au Maghreb ont tous voté au-delà de 90% pour Emmanuel Macron, comme Paris ou un petit peu mieux. Et donc, il y a une attente considérable et la visite au Mali complétera probablement. Et c'est très important parce que Emmanuel Macron... Tout le monde va se l'approprier. Je vous dis, c'est un président mondial. Et en tout cas, on attend que ce soit un président africain.
Béatrice Gibert. Moi, je ne vais pas être dans la lignée de mes trois prédécesseurs. Je parlais d'un livre de Florence Bergeau-Blaclair, Le marché halal ou l'invention d'une tradition. Je pense que c'est un livre extrêmement important pour comprendre comment l'association d'un capitalisme marchand et d'une stratégie politique, qu'on peut appeler géopolitique, du salafisme ou d'un islamisme radical, font alliance pour normer et dissocier par la nourriture, par l'alimentation, ce qui est halal et donc licite de ce qui est haram et qui est illicite. Donc vous ne pouvez pas manger comme nous puisque vous n'êtes pas comme eux. C'est un livre, je crois, qu'il faut impérativement lire pour comprendre ce qui risque de nous arriver.
Je vous remercie. Vous avez rendez-vous avec Alain Kruger qui reçoit le chef cuisinier du Mori Vinis Bar à Paris et de l'Emporio Armani Café, c'est Massimo Mori, et ils vont parler ensemble de moutarde et de condiments divers du nord de l'Italie, de la salsa verde au pesto de l'art, en passant par quelques moutardes de fruits diverses. C'était donc L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui la technique Valérie Lavalard, Fabien Capel et Emmanuel Armin, et avec nous dans le Studio 105 de la Maison de la Radio, un public attentif dont la sympathie nous a porté. Merci à vous.